Alors, bien bonjour tout le monde, Hélène Bédard au micro. Nous sommes à l'émission Les Voix de Service Magazine, l'édition du vendredi 6 octobre. Avec moi, qui ai-je? Une nouvelle venue, Madame Francine Forgette. Bonjour Francine.
Bonjour.
Et Catherine Brunet.
Bon vendredi.
Bon vendredi, oui, inhabituée. Alors voilà, maintenant nos sujets. En ce qui me concerne, je vais vous parler du coup de foudre chez les seniors. Oui, oui, c'est possible. Et ensuite, quelques articles sur comment changer le monde. Et vous, Francine, qu'allez-vous nous parler?
Alors moi, je vais vous parler de secrets de Facebook.
Intéressant.
Parfait, on applaudit.
Oui. Moi, je suis toujours à l'intérieur de nouveaux projets. Je vais lire un article d'Annabelle Soutard sur la trahison de l'information. Et je vais aussi lire un article sur comment on peut repenser l'urbanisation en ville.
Oh, tous des sujets passionnants. Merci. Alors, nous vous revenons dans un court moment. Oui, alors nous revoilà. Je vais vous introduire avec un dossier qui vient de Actualité vers Voilà Internet. Pardon, c'est de l'actualité de Passeport Santé Voilà Internet, je suis désolée. Alors, coup de foudre chez les seniors, est-ce que c'est encore possible? Savoir que l'un de nos deux parents vieillira seul est une idée peu réjouissante. Mais pourquoi imagine-t-on que les seniors ne pourraient pas tomber amoureux? Les coups de foudre peuvent frapper à tous âges. L'amour des seniors semble être un sujet tabou dans nos sociétés et pourtant c'est une réalité pour de très nombreux couples. Certains sont encore amoureux de leur conjoint, d'autres tombent amoureux à un âge bien avancé. Que dit-on d'une sexualité épanouie après 60 ans? Selon une étude menée en 2015 par le site de rencontres Elite Rencontres, les personnes de plus de 60 ans croient encore que l'amour est possible. Parmi les personnes interrogées, 96% avouaient qu'elles désiraient tomber amoureuses et 70% affirmaient qu'un coup de foudre était toujours possible, bien après 60 ans. Que deux personnes d'un certain âge aient envie de vivre ensemble et ressentent une véritable affection l'un pour l'autre, cela ne nous dérange pas, mais qu'elles puissent avoir du désir semble presque déroutant. Dans son autobiographie qu'elle s'apprête à publier, l'actrice Masha Merrill aborde ce sujet. Elle a épousé Michel Legrand en 2014. Ils avaient alors respectivement 74 et 82 ans. S'il n'y a pas de sexe sans amour, ben il n'y a pas d'amour sans sexe, dit-elle, dans un extrait obtenu par Ici Paris. Avant de dire oui à Michel, je devais affronter cette question-là et d'ajouter, en vieillissant, la sexualité évolue. Elle est différente, surprenante, mais tout aussi vive. Refaire sa vie après 70 ans, c'est possible. En 2011, près de 2600 couples âgés de 70 ans ou plus se sont mariés. Et depuis 2006, le nombre de mariés âgés de 60 à 65 ans a augmenté de 18% selon l'INSEE. Qui pourrait croire encore que le coup de foudre n'existe pas chez les seniors? Avec l'allongement de l'espérance de vie, une personne retraitée peut espérer vivre encore suffisamment longtemps pour connaître de belles expériences. Selon un sondage Via Voice, commandé par le ministère des Affaires sociales en charge des personnes âgées en 2014, 57% donc des 70 ans et plus estiment en effet qu'ils peuvent encore refaire leur vie. Et surtout quand Internet change la donne. Il faut dire qu'avec les réseaux sociaux et la multiplication des sites de rencontres, les seniors sont beaucoup moins isolés qu'il y a une vingtaine d'années. Ils peuvent plus facilement entrer en contact avec d'anciennes connaissances ou avec des personnes totalement inconnues. Certains sites de rencontres se sont même spécialisés dans ces amours entre personnes plus âgées. On pense notamment à des sites comme netsenior.fr ou seniorrencontre.com. Au-delà de la vraie recherche de l'âme sœur, ces sites permettent aux seniors de redécouvrir la joie du flirt et de la séduction. Certains avouent s'amuser follement sur ces sites de rencontres. Et qu'en est-il de cette vie sexuelle plus épanouissante? Quand on sait que le taux de divorce des plus de 60 ans a augmenté de 42% entre 2001 et 2009, on imagine que de très nombreux retraités cherchent l'amour. Il y aurait tort de s'en priver. Selon une étude menée par une équipe de chercheurs britanniques et publiée dans le New England Journal of Medicine, 34 % des seniors estiment que leur vie sexuelle s'est améliorée depuis qu'ils ont 60 ans. Après, il faut bien se rendre à l'évidence, après 60 ans, les hommes comme les femmes rencontrent des petits soucis qui peuvent affecter leur vie sexuelle. Mais le rapport au corps étant différent, la sexualité se libère. Les femmes, notamment, ne sont plus préoccupées par le moyen de contraception, plus de risques de grossesse indésirable. Seul compte, donc, le plaisir. Nos seniors seraient-ils vraiment libérés? Pour reprendre le sondage d'Élite Rencontre, ce n'est pas parce qu'ils tombent amoureux que les seniors ont envie de se marier. 66 % des personnes interrogées répondent qu'elles n'ont aucune envie de se marier. Quant à celles qui sont déjà mariées, elles sont 87 % à refuser de passer devant M. le maire. C'est un texte de Claire Verdier dans Passeport Santé, volet Internet. Poursuivre avec un texte de Francine Forget. Je vous laisse la parole.
Alors, merci Hélène. Je vais vous parler de Facebook. En fait, du grand secret de Facebook, le Building 8. Alors, dans son édition du 28 septembre, Le Point publie un article à ce sujet. Je vous en lis de larges extraits. L'auteur, Guillaume Gralet. Innovation. L'unité de recherche dirigée par Regina Dugan veut transformer notre cerveau en souris informatique. Pour le groupe de canards arlequins qui migrent vers l'Alaska et qui se reposent comme chaque année dans la réserve naturelle de Don Edwards, dans la baie de San Francisco, colonisée par des roseaux se courbant sous le vent, le changement est imperceptible. Vu du ciel, rien ne distingue le Building 8, un bâtiment quelconque, au milieu de centaines d'autres à l'intérieur du siège social de Facebook à Menlo Park. Mais il est interdit au public. Building 8 n'a même pas de dénomination précise sur Google Maps. Hors de question d'attirer l'attention. Aucune photo n'est autorisée à cause du caractère confidentiel des matériaux sur place. Et pour cause, cet endroit, protégé par une armée de caméras, constitue le cœur du réacteur de la machine Facebook. À observer le va-et-vient de camions remplis de semi-conducteurs, d'hélices pour drones ou de lecteurs à infrarouge, l'activité est intense à Building 8, division très secrète, nommée ainsi en référence au nombre de lettres qui composent le mot Facebook. L'expression Building 8 désigne aussi l'équipe d'une soixantaine de chercheurs de haut vol qui, depuis près d'un an, inventent le futur de l'humanité en griffonnant des équations mathématiques sur un vaste tableau blanc ou en bidouillant des électrodes. L'avenir de Facebook est entre leurs mains. C'est avec eux que Mark Zuckerberg entend concocter sa potion magique, celle qui permettra au réseau social âgé de 13 ans, aux 2 milliards de membres, de durer et de ne pas finir au fond des oubliettes du web, comme ce fut le cas pour d'autres, MySpace par exemple. Facebook utilise une partie de ses profits, 10,2 milliards de dollars en 2016, pour inventer les moyens humains de communication du futur. Quand le cerveau sera connecté à l'ordinateur. Le but. Facebook plonge sur un système capable de retranscrire sur un écran, sous forme de texte, nos pensées à la vitesse de 100 mots par minute. Taper un texte avec son cerveau sera 5 fois plus rapide qu'avec un smartphone. Le moyen. Pas question d'implanter des puces dans le cerveau. Facebook travaille sur des capteurs non invasifs qu'on pourrait poser sur la tête, qui mesureraient l'activité du cerveau et le scannerait des centaines de fois par seconde. La difficulté. Outre l'immense défi technologique à résoudre, Facebook est confronté à un problème de confidentialité. Le système doit être capable d'obéir à l'homme qui donnera des ordres précis à la machine. Retranscris cette pensée, mais surtout pas celle-ci. L'état de la science. Des chercheurs de l'Université Stanford ont implanté un capteur dans le cerveau d'une patiente entièrement paralysée. Grâce à ce système, elle a réussi à constituer des mots, lettre par lettre, par la seule force de sa pensée, retranscrit sur l'écran d'un ordinateur. Avec ce système, elle a pu écrire 8 mots par minute. L'angoisse. Qui acceptera de relier son cerveau à un logiciel détenu par Facebook? Et qui aura accès à ces électrodes qui pourront lire vos pensées? Comment être sûr que des hackers ne vont pas s'emparer de votre cerveau? Mark Zuckerberg suit de près le développement de la méthode du GAN. Elle se caractérise par la mise en place d'un agenda agressif, la fixation d'importants accords avec les universités et la possibilité de livrer des produits à grande échelle, se félicite-t-il. Mais quelques dents grincent. Alors que juste ici, une grande partie des recherches de Facebook était publiée en logiciel libre sur une plateforme, il est absolument impossible d'avoir un quelconque aperçu des avancées des recherches de Building 8. Et des questions éthiques se posent. Quid du respect de la vie privée si un système permet de se connecter directement sur notre cerveau? Alors voilà les extraits de l'article qui est paru dans Le Point, intitulé « Building 8, le secret de Facebook ».
La nuit avec toi. Quel est le mot de passe pour passer la nuit avec toi? Quel est le mot de passe? Quel est le mot de passe? Yeah. L'homme et la femme sont faits pour se faire les yeux doux. Et comme je suis un homme et toi une femme, ce soir je tente le coup. À la porte de ton champ de vision, mais personne n'est là, personne ne répond. Tes yeux restent fermés et tu me dis accès refusé. Je ne voudrais pas te surprendre, mais j'ai un porte-clés sur la lampe. 1000 mots, lesquels veux-tu entendre? Donne-moi donc un indice, je veux goûter aux délices. Oh, oh, oh. Quel est le mot de passe pour passer la nuit avec toi? Quel est le mot de passe pour passer la nuit avec toi? Quel est le mot de passe? Quel est le mot de passe? Yeah! L'homme et la femme sont faits pour faire l'amour. Et comme je suis un homme et toi une femme, je dois te faire la cour. Je sonne à la sonnette de ton cœur. Il n'y a personne à la demeure. Tu me tentes la nuit. Et tu me dis accès interdit. Je veux ramollir ton cœur de roche. Je vais sortir ma langue de ma poche. Trouver les mots qui nous rapprochent. Je veux te faire de l'effet. Donne-moi le code secret. Wow, 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 quel est le mot de passe pour passer la nuit avec toi? Quel est le mot de passe pour passer la nuit avec toi? Quel est le mot de passe?
Damien Robitaille et sa chanson « Mot de passe ».
Et nous revoilà après cette belle mélodie. Et je vais, on va passer le micro à Madame Catherine qui va nous enchanter avec son article dans Nouveau Projet.
Merci, oui. J'espère vous enchanter. C'est un article qui s'appelle « La trahison de l'information » et c'est d'Annabelle Soutard. On s'en souvient, Annabelle Soutard, elle a fait un projet avec Christine Beaulieu qui s'appelle « J'aime Hydro ». Et c'est un peu le centre de Nouveaux Projets, cette édition-ci. Ils ont fait un dossier en entier sur le verbe « s'informer ». Et on commence avec Annabelle Soutard. Il y a 25 ans, quand j'étudiais à l'université, je croyais qu'il y avait des faits indiscutables et que la vérité se trouve au bout d'une longue et sinueuse recherche dans une bonne bibliothèque. Bien entendu, cette conviction était idéaliste. Mais en tant que jeune universitaire, elle m'a inculqué une valeur essentielle aux échanges entre êtres humains, la confiance. Cette confiance n'était pas complètement aveugle. En lisant un essai ou un article, je comprenais que son contenu reflétait l'opinion subjective d'un auteur. Toutefois, cette limite n'ébranlait pas la légitimité de cette source. J'ai accepté l'idée qu'aucun auteur n'est omniscient et j'ai tenté de tirer des leçons de la parcelle de vérité propre à chacun d'eux. Je pouvais faire preuve de discernement et même être exigeante quant à la qualité et à la profondeur de leurs arguments, mais je ne craignais pas qu'ils tentent de me tromper. Je prenais le risque de plonger crédulement dans une interprétation personnelle de la réalité sans avoir peur de perdre la mienne de vue. Aujourd'hui, je constate que je suis devenue une lectrice prudente, voire méfiante. Les discussions sur l'écriture documentaire que j'entretiens avec mes pairs, mes amis et ma famille tourne principalement autour de l'intention et non autour de la qualité, de l'élaboration ou de la prémisse. Lorsque je vois des idées présentées comme des faits dans un article, je me demande de quelle façon elles ont été manipulées. J'accepte le cynisme comme un principe tacite du discours public et je m'abstiens d'énoncer une idée de façon trop catégorique, de peur d'avoir l'air intolérante. J'ai maintenant peur de m'exprimer avec conviction sur un texte de qualité lorsque ce contenu est délicat et politique. J'ai l'impression de ne plus être entièrement libre de le faire. La rédaction de Nouveaux Projets m'a demandé de rédiger un texte sur la contribution du théâtre documentaire, mon genre littéraire de prédilection, à la diffusion d'informations. J'ai jugé essentiel de commencer par ce préambule, car il est impossible d'avoir une discussion sur le fait d'informer les gens sans préciser le contexte dans lequel on tente de le faire. Je me suis obligée de vous dire que je suis une femme blanche, privilégiée et hétérosexuelle. Mes pièces sont financées par les fonds publics. Ma langue maternelle est l'anglais. Je penche légèrement vers la gauche sur le plan politique. Je suis née à Montréal, à Westmount pour être plus précise. Il y a 25 ans, je ne me sentais jamais sentie obligée de partager cela avec vous. Ça aurait été considéré comme gratuit et inutile dans un texte qui n'est pas de la fiction, à moins d'aborder explicitement certains aspects de mon identité. Aujourd'hui, je suis parfaitement consciente que ces facettes de mon identité seront jugées fondamentales pour saisir le ton et le contenu de cet article ou pour façonner un message politique à travers mes mots. Je sens que je dois volontairement les offrir pour prévenir ce genre de réaction. Comme l'a dit l'historien américain Timothy Snyder, J'ai décidé d'obéir à l'avance à la dictature de l'interprétation qui consume désormais le monde du partage de l'information. J'ai décidé d'accepter le corridor d'analyse étroit que m'octroie mon ethnie, mon statut socio-économique, mon identité sexuelle et politique. Au-delà de ces frontières, on ne peut plus me faire confiance pour vous informer légitimement. Ce qui ne signifie pas que je ne tenterai pas le coup. Après tout, résister à la tyrannie est à l'ordre du jour. Mes pièces de théâtre documentaires cherchent à faire fi des concepts d'identité et d'autorité. Ce sont des histoires écrites par une auteure qui aime écouter celles des autres et qui transmet ce plaisir à un public. Des histoires jouées par des acteurs incarnant des personnages qui ne partagent pas la même identité. Elles reflètent mon désir d'explorer les vérités universelles plutôt que de faire passer un message précis. Lorsque j'écris une pièce, je suis transparente et j'assume pleinement mon rôle de narratrice. Je rappelle mon identité au public pour qu'il puisse décider lui-même s'il peut me faire confiance ou comment il veut me faire confiance à ma façon de raconter l'histoire qu'il va découvrir. Je lui révèle mes partis pris et mes défauts en tant que témoin de la réalité pour qu'il puisse prendre conscience des siens. Je le fais car je crois que pour intégrer l'information, il faut évacuer la pression liée à la volonté d'y parvenir parfaitement. S'informer est une activité humaine et par conséquent délicieusement approximative. Malgré la nature imparfaite de mon autorité, j'aspire à devenir une narratrice documentaire rigoureuse et patiente. Je m'ouvre aux points de vue différents et divergents et je me permets d'être désorientée dans ma recherche et clarté sur un sujet donné. Je partage cette désorientation avec mon public afin qu'il puisse se pardonner d'être dérouté par ce qu'il entend. La vraie vie est difficile et contradictoire. Lorsque nous exposons quelque chose à un sujet, nous faisons davantage preuve de sagesse en tant que collectivité si nous acceptons et apprécions un certain degré de chaos. La rigidité est le pire ennemi d'une bonne narration documentaire. Pourtant, le contrôle est omniprésent dans le partage de l'information de nos jours. Les journalistes s'autocensurent par peur d'offusquer un lectorat trop chatouilleux. Les politiciens peaufinent leurs discours et leurs communiqués de presse afin d'éviter de violentes bourrasques dans les médias sociaux. Nous découvrons des efforts manifestes pour influencer la démocratie à coups de campagnes de désinformation. Le seul terreau où ces choses peuvent s'enraciner est celui où l'élément de confiance a complètement disparu. C'est dans cet environnement que je tente aujourd'hui, avec une certaine inquiétude, d'avoir une discussion franche avec le public. Par chance, le théâtre est un mode d'expression qui s'est toujours épanoui dans des périodes d'information musclées, parce que son sens fondamental est véhiculé par le sous-texte et non par le texte. Le sous-texte est offert au public et aux lecteurs ouverts d'esprit, sans être clairement visible aux agents culturels obsédés par le sens littéral et restreint. Les meilleures pièces sont celles qui offrent de multiples niveaux de signification à un public diversifié. Les auteurs de ces œuvres considèrent qu'il est suffisamment intelligent pour concilier différents sens sans qu'on lui en impose un en particulier. Désormais, en tant que dramaturge documentaire, je suis convaincue que pour informer les gens, je dois leur rappeler de faire confiance à leur instinct et d'accepter de ne pas être parfaitement renseignée sur le monde. Les implorer de quitter Facebook et Twitter quelques heures par jour pour entrer en contact avec une personne en chair et en os qui a une histoire véritable à raconter à propos de son expérience réelle dans le monde. Cette histoire comprendra presque assurément des vérités aussi incontestables qu'une statistique dans un article de presse. L'avantage de cette rencontre est qu'elle engendre une certaine confiance entre deux personnes authentiques. Et cette confiance bâtit une conversation à la fois entre amis, voisins, collègues de travail et par la suite entre politiciens et citoyens. Ça va établir les conditions qui nous permettront d'être informés pour vrai. Alors voilà, c'était un texte d'Annabelle Soutard, dramaturge qui vit à Montréal, qui est directrice d'artistique de la production Porte-Parole et qu'on connaît pour J'aime Hydro, mais aussi pour Monsanto contre Schneider, qui est paru en 2014. Excellent.
Nous sommes de retour, toujours dans le magazine d'actualité volet Internet. J'ai trouvé quelques articles intéressants. Changer le monde. Voici, je vais vous parler de Joanne Liu, Soigner l'humanité. Et c'est un texte de Catherine Dubé. Joanne Liu n'aime pas être vue comme une héroïne. La pédiatre urgentologue de 52 ans a pourtant fait plus de 20 missions avec Médecins sans frontières dans des pays dévastés par des guerres, des catastrophes et des épidémies, avant de devenir présidente internationale de l'organisation en 2013. La maman qui marche 3 jours avec son bébé malade pour atteindre un centre médical de Médecins sans frontières, c'est elle l'héroïne, tranche le médecin. Le ton est péremptoire, le regard est affirmé. En plus de s'adresser aux hautes instances, ONU, G7, G20, pour attirer l'attention des crises humanitaires, la présidente de Médecins sans frontières continue de se rendre sur le terrain. En Sierra Leone, elle a pris la mesure de l'ampleur de l'épidémie d'Ebola. Au Yémen, elle a vu les corps déchiquetés des victimes des bombardements. Voir la réalité, aussi horrible soit-elle, lui permet de mieux en témoigner. Car les 35 000 travailleurs humanitaires de Médecins sans frontières ne font pas que soigner. Ils dénoncent les situations qu'ils exigent. L'an dernier, l'organisation a ainsi refusé 63 millions d'euros de l'Union européenne pour protester contre la quasi-fermeture des frontières aux migrants fuyant les guerres. Refuser cet argent, environ 5 % des revenus annuels du MSF, a été perçu comme un geste courageux par certains, mais comme de l'arrogance par bien d'autres. La présidente l'assume. Il aurait été hypocrite d'accepter les fonds de l'Union européenne alors qu'elle met en application une règle qui humainement n'a pas de sens. Emprisonner une maman enceinte qui tente de sauver la vie de son enfant et la sienne qui a fui les bombes en Syrie, je ne comprends pas qu'on criminalise ces gens. Elle pourrait être cynique à force de côtoyer l'horreur. Il n'en est rien. Deux livres lus à l'adolescence résonnent encore en elle. Et la paix, docteur, vibrant témoignage d'un chirurgien de Médecins sans frontières, et La peste de Albert Camus, mettant en scène un médecin qui combat ce mal sans traitement. Joanie n'a jamais oublié les paroles de ce personnage sur ce qui le pousse à continuer. Je ne me suis toujours pas habituée à voir mourir. La jeune Liu en a fait sa devise, ne jamais s'habituer à la mort. C'est pourquoi elle s'est rendue devant le Conseil de la sécurité des Nations Unies l'an dernier pour exiger le respect de la règle la plus élémentaire de la guerre, épargner les civils et les soignants. En Syrie et au Vietnam, 34 hôpitaux gérés ou soutenus par Médecins sans frontières ont été la cible d'attaques par des coalitions militaires l'an dernier. L'année d'avant, devant les Américains, affirmant qu'ils disaient des talibans, ont bombardé un des hôpitaux en Afghanistan, tuant 42 personnes. Aucune armée n'est tolérée entre nos murs et nous soignons tout le monde, peu importe leur allégeance. Quand on se permet de bombarder des hôpitaux, on renie nos engagements par rapport à la Convention de 1951 de l'ONU. Ces choses, nous les avons créées collectivement. C'est notre part d'humanité collective. Il faut les défendre. Ne nous quittez pas. Nous revenons après la pause avec Francine, Catherine et moi-même, Hélène.
J'aurai 100 ans. Toi, moi. Je m'allongerai au chaud. Dans le creux de tes cernes. Comme un retour au verso. Comme pour mon dernier repos. Je colmaterai l'hiver. Toi un peu moins.
comprends mal les mots que tu veux que je serve comme un cowboy sans troupeau, comme un homme sans ego. J'ai honte, c'est la guerre. Le cachemire entre nous. Au comble, c'est horrible. Mais les blessures meurtrières arrosant cet aride. Je veux cet avenir qui ne sera qu'à nous. Aime-toi, je t'en supplie. Même si tu oublies, que tu t'oublies. Même si tu oublies, que tu m'oublies.
Chanson écrite par Maxime Le Flaguet, chantée par Béris et Jean-Louis Cormier.
Pour faire suite à cette immense chanson, je vais vous lire un texte de Jean-Charles R. Je te choisirai, même lorsque tu seras fatigué et épuisé. Je te choisirai, dans l'incapacité même de lever la tête de ton oreiller, te roulant dans le lit avec les membres en caoutchouc. Même lors de ces matinées où affronter les miroirs de la salle de bain paraît impossible, car tu ressens le poids du monde sur tes épaules, et que tu fais infuser le café du matin avec les lumières allumées parce que le soleil ne s'est pas encore levé. Néanmoins, je te choisirai. Je me dirigerai vers toi, je te serrerai dans mes bras. J'inclinerai mon front contre ta poitrine. Je respirerai profondément et lentement en priant pour toi afin que cette énergie te porte où que tu ailles. Je te choisirai même si tu n'as aucune envie d'afficher un sourire sur ton visage, et que tu es amer, furieux. Toutefois, je sourirai, je t'embrasserai sur la joue, je te dirai à quel point je t'aime. Toutefois, j'irai me coucher juste pendant une heure en rêvassant de ta main posée sur la mienne. Toutefois, je te choisirai encore et encore. Je te choisirai même les jours où tu ne te choisiras pas, où tu laisseras tes cheveux en pagaille, que tu seras affaissé, même lorsque tu sentiras un peu fort, que tu te plaindras un peu trop, en criant à haute voix tout en étant insupportable. Toutefois, je te choisirai. Je te laisserai avoir ton espace et irai volontairement dans le mien. Je prendrai soin de toi, de près et de loin. Je te soutiendrai de toutes les façons possibles. J'utiliserai mes paroles, mon cœur, pour te renforcer lorsque tu seras brisé. Je ne te laisserai jamais te battre seul. Je te choisirai même lorsque tu penseras incapable d'être l'homme ou la femme que je connais. Lorsque tu auras un doute, je resterai à tes côtés pour t'encourager, t'aider à combattre et garder la foi. Et je continuerai à t'aimer, même dans les moments les plus sombres, tout en continuant de te choisir. Je te choisirai, même lorsque nous ne serons pas d'accord. Je te choisirai, même lorsque nos voix s'élèveront et que je chercherai désespérément à m'enfuir. Même les nuits où je m'éloignerai de toi en me collant à l'autre bout du lit, en croisant mes bras, sans laisser de place au pardon, tout en sachant que ce n'est pas bien. Je te choisirai malgré tout. Je t'aimerai, peu importe la colère que je ressentirai. Je m'en ferai même si mon cœur semble bien loin. Aussi grande soit ma réticence, je me pousserai vers ton oreiller et me glisserai dans tes bras. Je te choisirai même lorsque tu me mettras en colère. Mon amour pour toi ne disparaîtra pas juste parce que nous sommes en colère. Je sais que nous allons nous battre. Nous serons peut-être frustrés, mais nous serons humains. Toutefois, je me battrai pour toi et je te choisirai. Pour le meilleur et pour le pire, dans certains cas, nous oublierons presque la beauté de notre relation, même quand il y aura d'autres options, que d'autres opportunités frapperont à ma porte, quand j'aurai des doutes sur le fait de partir et de me retrouver avec quelqu'un d'autre, je te choisirai. Je valoriserai nos liens, nos promesses. Je me rappellerai du bien, même si nous pataugerons dans le mauvais. Je t'attendrai lorsque tu sembleras si loin de moi. Je parlerai afin de ne pas laisser mes émotions inexprimées. Je te choisirai même dans le doute, même dans les moments où nous hésitons tous les deux, nous demandant s'il s'agit bien de l'amour. J'accepterai le fait que nous sommes des êtres imparfaits et défectueux. Toutefois, je t'aimerai quand même, peu importe quel obstacle la vie mettra sur notre chemin. Tu seras à moi à tout jamais et je continuerai à te choisir. Je te choisirai, je continuerai à te choisir chaque jour que le ciel fait. Marisa Donnelly. Un rappel, le dernier texte que j'ai lu vient de Internet, Esprit Science, et c'est un texte de Marisa Donnelly. Maintenant, Catherine, tu vas nous emmener où?
Je nous amène en urbanisme nouveau. C'est dans la section ouverture du nouveau projet. C'est écrit par Marie-Soleil Banville. Et pour la présenter un petit peu, elle détient une maîtrise en urbanisme à l'Université de Montréal et elle s'intéresse à l'éthique dans les professions de l'aménagement, veut agir pour les villes plus justes et combattre la spéculation immobilière chez Vivacité, société immobilière solidaire. C'est un article qui s'appelle « 5 lois pour une panique salutaire ». En plus d'être d'un ennui mortel, l'attirail juridique qui encadre le développement des villes invite rarement à innover. Qu'arrivera-t-il si nous adoptons des lois pour nous mettre collectivement au défi d'être inventifs? Objectif, faire souffler un petit vent de panique, nous tirer de la torpeur et nous projeter vers un avenir urbain plus viable. Encourager l'autopromotion. Dans la capitale nationale, la coopérative Cohabitat Québec est constituée de propriétaires qui ont conçu et réalisé leur propre habitation collective. Ayant omis d'obtenir les coûteuses licences imposées aux promoteurs immobiliers, ce groupe s'est retrouvé au cœur d'un long litige avec la Régie du bâtiment de Québec. Or, ces citoyens n'étaient pas en quête de profit. Ils ont simplement voulu créer leur milieu de vie. Cohabitat Québec a heureusement obtenu gain de cause, mais beaucoup reste à faire pour que nous nous réapproprions le droit de bâtir nos demeures. Comme le clamait l'architecte Anders Wasen, il est temps que les gens se révoltent contre ces constructions semblables aux cages à poules et à lapins qui ne correspondent en rien à leur nature. Bannir la pelouse. La pelouse est aujourd'hui, avec le blé et le maïs, l'une des monocultures les plus répandues en Amérique du Nord. Culture stérile et énergivore, elle est étroitement liée à l'essor de la banlieue et constitue un important marqueur de classe sociale. Mettre fin au règne du gazon est un choix environnemental qui favoriserait l'appropriation des espaces situés entre le domaine privé et l'espace public. Elle nous pousserait à plus de créativité. Des couverts écologiques au potager en façade, les solutions de rechange existent. Pourtant, plusieurs municipalités au Québec continuent de les bannir et d'imposer des pourcentages de gazonnement. Faire payer le droit de conserver un local vacant. Un propriétaire préserve son local sur la rue Saint-Denis en attendant une grande histoire d'amour avec McDo? Fine, qu'il paye! En instaurant un permis de vacances, Chicago s'est attaqué au sclérosant problème des locaux vacants sur ses grandes artères. Plus la période d'inoccupation est longue, plus le prix du permis s'élève. Efficace, cette mesure contribue aussi à rééquilibrer le rapport de force entre petits commerçants et grands propriétaires, car ceux-ci, à force de voir le monde à travers un chiffrier Excel, oublient parfois l'importance de ces espaces dans l'écosystème d'un quartier. Interdire l'asphalte. L'eau, l'électricité, les égouts, éléments fondamentaux sur lesquels repose notre fragile civilisation, sont enfouis sous une imposante masse d'asphalte qu'il faut démolir et reconstruire au moindre incident. Pour s'émanciper de ce coûteux et polluant bitume, la ville de Rotterdam, aux Pays-Bas, travaille à l'implantation d'une première rue constituée de panneaux de plastique recyclés, modulables et préfabriqués. Fantasme incarné de l'économie circulaire, les panneaux abîmés pourront être rapidement remplacés et reconvertis en nouvelles sections de route. Si nous l'accomplissions ici, cette révolution marquerait aussi la fin du nid de poule. Nation québécoise, trouve-toi un autre sujet de conversation légère. Abolir le stationnement sur rue. L'accès à un stationnement n'est pas un droit humain. C'est comme nous demander où placer votre nourriture ou vos vêtements. Ce n'est pas un problème de gouvernement, disait le flamboyant Enrique Penalosa, maire de Bogota, en Colombie. Au tournant du millénaire, son administration construisait un ambitieux système de transport rapide par bus tout en réduisant considérablement le nombre de stationnements disponibles dans l'espace public. Selon lui, les fonds publics doivent bénéficier à tous les citoyens, pas uniquement aux propriétaires de voitures. En ce sens, limiter l'usage de l'automobile est avant tout une question d'équité et de démocratie. Alors voilà, 5 lois pour une panique salutaire de Marie-Sophie Banville.
Nous sommes de retour et je vais poursuivre avec un texte que j'ai pris sur le site internet de Les Boumeuses. Mon mari a pris un coup de vieux. Je vois des sourires en studio. Non. Alors voilà, mon mari a pris un coup de vieux. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous avez le même âge et pourtant il semble avoir pris un coup de vieux et pas vous. Et ça, ça vous pose un problème. Cette photo que vous avez prise durant les dernières vacances aura suffi à mettre en évidence ce que vous pensiez déjà tout bas. Un décalage s'est creusé entre votre mari et vous. Cheveux grisonnants, vêtements improbables, dos courbé, mais où est donc passé son charisme et sa prestance? Nous vieillissons généralement progressivement, ce qui nous laisse le temps de nous habituer, explique Gérard Tixier, psychanalyste. S'il est normal de vieillir, il faut cependant rester vigilant, car une apparence plus vieille, moins joyeuse, moins dynamique, peut-être le résultat d'un déficit hormonal. Chez les hommes, ça peut être la testostérone, ou bien d'une dépression ou d'une maladie latente. On verra. Et si c'était vous qui faisiez plus jeune? Après tout, c'est une éventualité. Votre mari fait peut-être son âge et entame naturellement une nouvelle période de sa vie sans lutter, en lâchant prise sur ce qui peut ne peut être maîtrisé comme le temps qui passe ou la mort inéluctable. Ce qui n'est peut-être pas votre cas. Les premiers cheveux blancs, les variations hormonales, la vue qui baisse sont là pour vous ramener à cette réalité. Le spectre de la mort se dessine peut-être pour vous et vous fait sans doute peur. Parfois, c'est plus difficile de voir le vieillissement chez l'autre que chez soi, précise donc notre expert. Un vrai travail d'introspection est alors à faire sur soi. Avez-vous peur de perdre le désir pour l'autre ou que l'autre ne vous regarde plus, de voir votre sexualité diminuer, peur de la perte d'autonomie, de la dépendance? Comment donc redynamiser? Il n'y a pas d'âge pour faire jeune. Certains sont vieux à 20 ans, quand d'autres croquent à pleines dents la vie à 70 ans. Faire jeune n'est pas une histoire d'années, c'est dans la tête. Peut-être avez-vous su naturellement entretenir cette philosophie à l'inverse de votre mari? Il est temps d'entamer le dialogue à ce sujet, sans le brusquer, sans l'accuser, en lui disant par exemple que vous vous faites du souci pour lui en ce moment, que vous êtes à ses côtés s'il veut parler d'un sujet qui le tracasse. Vous pouvez lui dire que vous aimeriez faire plein de choses avec lui. C'est le moment de changer de voiture, de garde-robe, d'acheter un appartement au bord de la mer, de faire du vide dans la maison, de voyager, de s'inscrire à une activité sportive ensemble. Pourquoi pas ce fameux cours de tango dont vous aviez toujours rêvé de pratiquer en duo? Aujourd'hui, vieillir n'est plus le signe de la fin de vie, rassure Gérard Texier, toujours le psychanalyste. Il est important de ne pas vouloir faire jeune à tout prix. Rester jeune, c'est avant tout un état d'esprit. On apprécie le temps autrement, sur un autre rythme. On est moins dans la performance, mais davantage dans la qualité. On se montre plus inventif, et cela dans tous les domaines. C'est avant tout conserver le désir de faire les choses. S'étonner, s'enchanter pour un rien, se montrer curieux de tout. Ce qui s'anime à l'intérieur de vous se voit forcément à l'extérieur. Voici quelques... J'ai trois témoignages fort intéressants. Lucille, 51 ans. Quand j'ai senti un écart se creuser entre Fabien et moi, je lui en ai tout de suite parlé. Il a osé alors m'exposer ses difficultés et tout particulièrement sa tristesse de ne plus être aussi performant sexuellement qu'auparavant. Il avait l'impression de s'éteindre à petit feu s'il n'était plus aussi réactif dans ce domaine. Alors ensemble, nous avons choisi d'avoir uniquement des rapports sexuels de qualité. Peu importe la quantité, il vaut mieux un rapport par semaine excellent que 5 médiocres, n'est-ce pas? Nous nous sommes montrés plus inventifs, moins omnibulés par la pénétration. Ce passage à une sexualité plus sensuelle a suffi à lui redonner confiance. Barbara, 50 ans. Quel choc lorsque j'ai vu mon mari réessayer un polo qu'il aimait tant et qu'il n'avait pas vu depuis des années. Il flottait dedans. Il semblait moins musclé. Hop, hop, hop. En deux clics, j'avais réservé pour deux personnes dans un super centre de Thalasso pour un check-up complet. Ce séjour fut l'occasion pour nous de nous reposer, de parler de la vie, de nos envies futures, mais aussi pour reprendre de bonnes habitudes d'hygiène de vie, notamment alimentaire. Nous nous sommes aussi remis au sport. Un vrai renouveau qui semble déjà porter ses fruits, en moins de 3 mois. Mon homme aujourd'hui a des traits plus reposés, un teint plus frais. Le voir prendre de l'âge ne m'effraie plus. Et Maryse, 57 ans. J'ai bien été tentée de botoxer mon mari pour lui donner un coup de jeune en gommant ses rides, mais je sentais bien que le problème était ailleurs. Il était pâle, sans réaction, moins enthousiaste au petit bonheur de la vie. J'ai d'abord cru que c'était le cours normal de la vie, mais j'ai compris que c'était sérieux. J'ai alors décidé de quitter son travail. Je l'ai alors décidé de quitter son travail inintéressant pour se lancer dans une nouvelle activité, plus artistique, donc plus proche de ses aspirations. Je l'ai vu se réanimer de jour en jour. Son étincelle est revenue dans son regard et ça change tout. Merci donc pour son éclairage à M. Gérard Texier, psychanalyste et co-auteur du livre « Les abus affectifs » chez Albin Michel. Un texte de Sandrine Catalan-Massé sur le site Les Boumeuses.
Continue ma lecture de nouveaux projets, toujours dans le dossier Ouverture. Cette fois-ci, c'est L'idée à voler. C'est un article de Marc-André Sabourin, qui est journaliste au magazine L'Actualité. Son article s'appelle « Mettre la hache dans le cache ». Ne retirez pas de couronne si vous voyagez en Suède. Vous aurez de la difficulté à les écouler. Le pays scandinave tourne tranquillement le dos au paiement en espèces. Tant et si bien que nombre de restaurants, de taxis et de commerces refusent dorénavant l'argent liquide. Même à l'église, mieux vaut sortir sa carte de débit ou de crédit pour la quête. En 2010, 40% des transactions dans le commerce de détail suédois étaient réglées en comptant. 4 ans plus tard, c'était 20%. Au cours de la même période, la valeur totale des billets et pièces de monnaie en circulation dans l'économie du pays a chuté de 45%. Bien que la décision d'imprimer de l'argent revienne à la Riksbank, la Banque centrale, ce n'est pas elle qui a orchestré cette transition, et encore moins le gouvernement. Ce sont les institutions financières. Depuis le début de la décennie, un nombre croissant d'entre elles ont banni l'argent comptant de leur coffre. Elles refusent même les dépôts. Les Suédois ont accepté ce changement parce que les banques du pays se sont alliées pour offrir une solution de rechange aux espèces. Swish. Lancée en 2012, cette application mobile permet de transférer de l'argent à un particulier à une entreprise aussi facilement qu'on sort un billet de son portefeuille. Son efficacité, combinée à sa sécurité, a convaincu la majorité des 9,8 millions de Suédois de l'utiliser. Sans surprise, ce sont d'abord des considérations pécuniaires qui ont poussé les banques à tourner le dos aux espèces. Le transport, l'entreposage et la distribution d'argent liquide coûtent une fortune en services de sécurité et en assurance, surtout dans des pays comme la Suède où les braquages sont monnaie courante. Depuis la transition, les vols de banques sont moins fréquents. En 2015, 23 institutions financières ont été cambriolées, une baisse de 70 % en 10 ans. Certes, les braquages sont rares au Canada. Le pays n'en aura pas moins intérêt à s'inspirer de l'exemple suédois afin de lutter contre le crime à motivation économique. Pour vendre de la drogue, corrompre un élu ou travailler au noir, il faut de l'argent liquide. À moins d'être un geek à l'aise avec les bitcoins et autres crypto-monnaies, c'est le seul moyen de tirer profit de ces activités illicites, tout en échappant au regard du fisc et des forces de l'ordre. Éliminer la monnaie et les billets, et le quotidien des bandits devient beaucoup plus complexe. Une transition vers une économie sans espèces doit cependant être planifiée de longue date et survenir graduellement, en tenant compte de ceux qui n'ont pas accès aux nouvelles technologies de paiement ou ne sont pas à l'aise à les utiliser. Surtout, ne pas faire comme l'Inde, qui a envoyé valser le billet de 1000 roupies, environ 20 $ canadiens, du jour au lendemain. Mise en place fin 2016, cette mesure devait permettre de lutter contre la criminalité. Ce sont toutefois les plus pauvres qui cachaient leur maigre économie dans leur matelas plutôt que dans le coffre de banque qui en ont payé le prix. Alors voilà, un article qui se penche sur la question de comment lutter contre la corruption, le trafic des stupéfiants et le travail au noir en éliminant graduellement l'argent liquide, comme la Suède le fait. C'est un article de Marc-André Sabourin.
Nous sommes de retour et je vais vous faire la lecture d'un texte toujours dans le volet « Changer le monde ». Ça fait quelques textes que je vous lis là-dessus et cette fois-ci, on va parler de Stanley Volant, le médecin qui marche. Pour le docteur Stanley Volant, 52 ans, premier chirurgien autochtone du Québec, « Changer le monde » passe par une marche de 6000 km parmi les 11 premières nations et communautés inuites du Québec, qui se conclura en 2018. Son objectif? Sensibiliser les Autochtones à l'importance de l'activité physique et inspirer les enfants à poursuivre leurs rêves. Le plus important pour les Autochtones est de retrouver les bienfaits de l'activité physique ou de lutter contre le décrochage scolaire. À quoi faut-il donc s'attaquer? Il répond. Les deux sont liés. De nombreux problèmes de santé qui s'observent chez les Premières Nations sont dus à la sédentarité. J'ai passé les 7 dernières années de ma vie à prêcher par l'exemple. Mon message aux enfants, ils peuvent croire en leurs rêves. Si je suis devenu médecin, eux peuvent rêver d'être le premier astronaute ou le premier ministre canadien d'origine autochtone. Mais on a aussi besoin d'électriciens, de soudeurs, de mécaniciens, d'ingénieurs et d'avocats. Tout ça passe par le système scolaire.Ur le plan de la santé, la sous-scolarisation mène au diabète, à l'obésité morbide et au suicide. Mais qu'est-ce qui reste à faire pour changer le monde? Il répond, on changerait le monde si on assurait à tous les enfants l'accès à un toit, suffisamment de nourriture et un climat familial sain. C'est ce qui manque dans la plupart des communautés autochtones actuellement, mais aussi dans certains quartiers de Montréal. Quand tu n'as rien pour déjeuner, que tes parents sont intoxiqués et que tu fréquentes une école où les enseignants sont à bout, pas facile de croire à tes chances de t'en sortir. Y a-t-il de l'espoir? Depuis le génocide culturel des écoles résidentielles, les Autochtones ont mis 3 générations à glisser vers l'état actuel d'affliction. Ils auront besoin de 3 générations pour remonter la pente et je ne m'attends pas à avoir beaucoup d'améliorations de mon vivant, mais l'espoir est là. Un texte de Mathieu Robert Sauvé du 15 septembre 2017 dans le volet « Changer le monde » de la revue Actualité. Eh bien, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été à notre écoute. Je tiens à remercier mes chères collaboratrices. Francine, merci.
Bien, merci pour votre accueil.
Catherine, merci.
Merci, Hélène.
Et je tiens à remercier aussi Mathieu. Merci pour nous supporter à la régie de façon aussi extraordinaire. Merci. Alors, j'espère vous retrouver tous la semaine prochaine. C'est Hélène Bédard qui vous dit au revoir et merci.
Bonne semaine.
Bonne semaine.
Bonne semaine.